Journal, une heure d'info avec vous, Pierre de Villeneuve. Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël Duchemin, bonjour à tous.
Merci d'écouter Europe 1. Il est midi.
Vous avez quel niveau normalement ?
Des CM2.
D'accord, donc voilà. Là vous avez eu des élèves de tout niveau ?
Donc là, ici actuellement, on a des élèves de CP, CE1, CE2 et CM2.
Emmanuel Macron au plus près de la rentrée des épaules, le chef de l'État face aux maires d'Île-de-France qui disent non, pas le 11 mai.
Oui, le président en opération, la rentrée possible le 11 mai, c'est à Poissy dans les Yvelines. Quelles règles, quelles priorités et le cas parisien, nous voyons ça dans le détail et nous recevrons Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement de Paris pour nous expliquer tout ça.
L'autre sujet de l'actualité, Pierre, c'est la culture. Franck Riester était l'invité d'Europe 1 ce matin. Question, les salles de cinéma vont-elles rouvrir ?
La volonté de la Fédération du cinéma français, c'est que la rouverture se passe en même temps partout en France.
Nous ferons le point, d'autant que l'infectiologue François Bricaire propose un plan là-dessus précisément. Et nous inviterons Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture, qui publie une tribune encourageant un plan Marshall pour la culture. Dans ce journal également, je suis confiné dans un département vert. Je repars travailler dans le rouge. Bonjour l'angoisse, reportage à suivre. Que se passe-t-il au Mali ? Un deuxième soldat français tué en l'espace de 4 jours. Didier François nous explique tout. 200 euros de prime pour les jeunes, modestes ou précaires, en cette période de Covid. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, nous détaillera ce plan. Elle est l'invitée de ce journal. La météo, bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Pierre, bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Bonjour Anissa.
Et c'est le calme après les orages.
Oui, effectivement, le temps redevient calme, surtout dans le sud-ouest après une nuit très agitée. Nous avons encore quelques petits orages par-ci par-là sur certaines régions, notamment dans le nord. Les températures, elles sont toujours très douces cet après-midi dans le sud. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Merci Anissa, on se retrouve juste avant 13h, météo complète sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Il n'avait pas son cartable sur le dos, Pierre, mais Emmanuel Macron a tout de même pris le chemin de l'école ce matin.
Oui, mais c'est justement avec l'ambition qu'il y ait le plus de cartables possible la semaine prochaine devant la réticence des élus qu'on a vu. Visite à Poissy, dans les Yvelines, avec en face donc ces maires qui ont signé la pétition du non-retour des élèves le 11 mai. Après la visite de l'école Ronsard, poète qu'affectionne tout particulièrement le président d'ailleurs, une visioconférence avec les élus doit se tenir. Voilà pour le programme. Adrien Beck, Emmanuel Macron en tout cas a voulu montrer que l'école dès lundi c'est possible.
Oui, dans une école évidemment pas du tout choisie au hasard. C'est un peu une école modèle, cette école Ronsard, ouverte depuis le début du confinement. Elle accueille une trentaine d'élèves par jour, des enfants de soignants, de pompiers, de policiers. Masque en tissu bleu nuit sur le nez et la bouche. Emmanuel Macron est allé visiter deux classes, des tables espacées, une enseignante masquée, des élèves qui se lavent les mains régulièrement, avec qui le chef de l'État a échangé.
Alors qu'est-ce que c'est les gestes barrières ? Vas-y.
Il faut se laver très régulièrement les mains, tousser, éternuer dans son coude.
Ouais.
Et utiliser des mouchoirs à usage unique et après il faut les jeter.
Très bien.
J'ai appris la pub par cœur.
Voilà, ça c'est la preuve par l'exemple. La réalité est un petit peu plus compliquée. À l'Élysée, on nous assure que la doctrine reste la même. Chaque commune a son rythme, mais de nombreux maires s'alarment de consignes très strictes, de risques de contamination. Des élus qui n'ont pas non plus toujours compris la communication, parfois contradictoire du gouvernement. Quand l'Élysée nous assure ces dernières heures que chaque commune pourra rouvrir à son rythme, je viens de le dire, et Jean-Michel Blanquer assurait hier soir, si c'est possible à certains endroits, c'est que ça doit être possible à peu près partout.
Merci Adrien Beck.
Alors essayons d'en savoir plus, Pierre. Virginie Salmen est à nos côtés. Aux dernières informations, Virginie, il y a ces critères de priorité. Quels sont-ils et surtout comment vont-ils être appliqués ?
Alors, les critères peuvent varier un peu suivant les communes, mais globalement, il s'agit d'accueillir les élèves sur des critères de solidarité d'abord. Les enfants des travailleurs essentiels, donc des soignants aux agents communaux, les enfants en situation de précarité sociale, et puis sur des critères pédagogiques, donc les classes charnières, grande section, de maternelle, CP, CM2, certains priorisent aussi les CE2, ça dépend un peu. Donc, on accueille d'abord tous ces élèves, de préférence à temps plein, donc 4 jours ou 4 jours et demi par semaine, et ensuite, s'il reste reste de la place dans l'école, on essaie d'accueillir d'autres catégories d'élèves, 2 jours par semaine, 1 jour ou 1 demi-journée, pour qu'ils gardent un lien avec l'école. Les directeurs d'école et les professeurs connaissent leurs élèves et savent comment prioriser, mais il y aura des élèves qu'on ne pourra pas accueillir. J'ai demandé à un directeur d'école du Val d'Oise, Olivier Flippot, élu du SEINSA, de nous l'expliquer concrètement.
Il pourrait y avoir des enfants qui seraient refusés. Par exemple, je dispose de 5 enseignants. Si j'ai, admettons, 100 enfants, dont une partie sont prioritaires, donc doivent être pris toute la semaine, je ne pourrais pas accueillir tout le monde. Matériellement, je ne peux pas.
Virginie, on a beaucoup parlé de Paris, du département 75. Donc pourquoi ? Il y a une spécificité ?
Alors à Paris, la spécificité, c'est la densité urbaine, hein, le nombre d'élèves. Il y a près de 6800 écoles, il y a 163 000 élèves. Et puis aussi beaucoup d'écoles, Jules Ferry, vous savez, ces écoles avec des couloirs étroits. Et puis aussi une organisation spécifique par arrondissement, notamment pour la cantine. Donc ça fait beaucoup d'intervenants à coordonner avec un enjeu économique important. Et puis aussi de nombreux parents qui souhaitent remettre leurs enfants à l'école pour pouvoir aller travailler.
Merci de toutes ces précisions. Virginie Salmen.
Alors justement, on va rester à Paris. Hein. Bonjour Geoffroy Boulard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, maire du 17e arrondissement. Qu'est-ce que vous dites ce matin aux parents qui se réjouissaient de la reprise de l'école pour leurs enfants, qui ne sont pas prioritaires et qui vont donc devoir continuer l'école à la maison ?
Et je vais leur dire d'être patients, d'attendre l'appel du directeur ou de la directrice de l'école, de leurs enfants, pour savoir si ils vont pouvoir intégrer et leur enfant va pouvoir intégrer l'école. Moi, ce que je sais, c'est qu'il va y avoir beaucoup de déçus. On a communiqué beaucoup sur la date du 11 mai. On a l'impression que le monde d'avant allait redevenir réalité pour bon nombre d'enfants et de parents qui allaient pouvoir retravailler. Mais on voit que la réalité est tout autre. À Paris, la rentrée, elle sera progressive. Elle sera à partir du 14 mai. On est, nous, maires d'arrondissement, en première ligne. Et je déplore un petit peu le désengagement de la mairie centrale sur ce sujet, qui nous laisse en prise directe avec l'éducation nationale, alors que le rectorat discute avec la maire de Paris et que visiblement tout va bien entre eux. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que le rectorat et l'académie de Paris n'a pas utilisé la bonne méthode. La bonne méthode, c'était de savoir et de connaître finalement la participation des enseignants à partir du 11 mai dans les écoles. Et on est encore aujourd'hui mardi, on n'a toujours pas de chiffres précis sur la présence des enseignants qui sont en charge de l'instruction.
Mais vous dans tout ça, quel pouvoir vous avez, Geoffroy Boulard ? Est-ce que vous pouvez dire, nous dans le 17e arrondissement on va faire comme ça, ou est-ce que vous êtes tributaire ? Alors j'ai pas très bien compris ce jeu à plusieurs, mais visiblement il y a beaucoup de décideurs au-dessus de vous.
Mais c'est le grand problème à Paris. Si vous avez l'éducation nationale, vous avez la ville de Paris qui est propriétaire des murs et qui a la responsabilité des activités périscolaires. Et puis vous avez la mairie d'arrondissement qui a la responsabilité de la restauration scolaire. Et donc les trois doivent pouvoir s'entendre pour réouvrir une école. Donc s'il y a un chaînon manquant, eh bien l'école ne pourra pas rouvrir. Et la responsabilité de l'ouverture, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui la prendra via son directeur d'école. Et nous, en tant que maire d'arrondissement, on refuse d'avoir la responsabilité l'ouverture ou pas de l'école.
Et en l'état, est-ce que vous savez combien d'écoles vous êtes en capacité de rouvrir aujourd'hui 5 mai ?
Absolument aucun chiffre, je peux vous communiquer, parce que j'attends les retours des inspectrices de l'éducation nationale qui font le lien avec les directeurs d'école, qui eux-mêmes font le lien avec leurs enseignants pour savoir s'ils seront présents la semaine prochaine. Et pour savoir aussi combien de parents souhaitent potentiellement remettre leurs enfants à l'école. Moi, je sais qu'on fera beaucoup de déçus je trouve que cette rentrée progressive, cette réouverture progressive, parce que c'était une réouverture progressive, elle a été mal anticipée de par le gouvernement, qui a attendu beaucoup trop de temps, qui a pris trop de temps pour interroger ses propres enseignants.
Quand vous dites ça au gouvernement ou à la mairie de Paris, on vous répond quoi ?
Mais tout le monde, à la mairie de Paris, ils sont d'accord avec moi. Moi, j'ai interpellé le recteur sur le sujet. J'ai dit, il y a un problème de méthode. Les propos du président de la République, l'annonce du président de la République sur le 11 mai, on le sait déjà depuis 15 jours. Qu'est-ce qu'on a fait au ministère de l'Éducation nationale ? Alors, on a cherché à mettre des publics prioritaires Bon, c'est très bien, c'est normal que le personnel de santé, les enfants des personnels de santé soient accueillis, que les enfants des personnels des services publics essentiels à la nation soient également accueillis. Mais on a rajouté de la complexité avec le volontariat qui a fait croire à des parents, qui laissent croire aux parents qu'ils vont pouvoir laisser leurs enfants le 11 mai. C'est pas vrai. À Paris, ce sera le 14 mai. Et si on a les enseignants disponibles, et ce matin, je suis incapable de vous dire dans quelles écoles on pourra accueillir des enfants, parce que les premiers retours que j'ai eus hier soir de l'éducation nationale étaient assez pessimistes, et c'est sur une ouverture de toutes les écoles, par exemple dans le 17e, vous voyez. Donc j'attends demain à midi, et voilà.
Ah ben on se rappelle.
On va se rappeler, j'en saurai plus à midi, mais ce que je vois, c'est que les maires sont en première ligne, on est au-delà de nos compétences, on le fait parce que c'est important, ça fait partie aussi de notre mandat, mais à un moment donné, on a besoin d'être aidé. Et il y a beaucoup trop de décisions bureaucratiques qui montrent bien que ces décideurs publics, hein, je pense au niveau de l'éducation nationale, ne sont jamais venus dans une école.
Merci, Geoffroy. Boulard, merci Geoffroy Boulard. En tout cas, il y en a un qui est sur le terrain, c'est Emmanuel Macron, on l'a vu en début de journal à Poissy. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi.
Alors voilà pour le domaine de l'école, Pierre, mais tous à notre niveau, hein, nous sommes finalement confrontés à cette fameuse reprise. C'est d'autant plus vrai pour ceux qui sortent d'un confinement lourd, on va dire.
Oui, tous ceux qui se sont retrouvés confinés au grand air, à la campagne, à la montagne, loin des villes, loin peut-être du virus, qui vont devoir repartir travailler. Que faire quand on quitte un département classé vert pour rejoindre le rouge vif ? L'angoisse, reportage Élise Dangean.
Chez nous, on n'a pas été touché plus que ça. Donc en fait, moi je me dis, potentiellement, je peux ramener la maladie et contaminer les personnes.
À partir de lundi, Jérémy va reprendre ses trajets quotidiens entre Cherbourg, où il vit, et Paris, où il travaille. Ça hantise, ramener le virus dans ses bagages. D'autant que ce père de famille est contraint de prendre les transports collectifs, train, métro, bus, là où la distanciation sociale lui semble bien difficile à respecter.
Déjà de base, même en commençant très tôt le matin, les trains sont pleins, il y a toujours du monde. Il faut fréquenter les transports pour comprendre que ça va être super compliqué.
Passer du vert au rouge, c'est ce que s'apprête à faire Hugo et sa compagne, confinés dans leur maison familiale près de Montpellier. Tous les deux reprennent le travail lundi, il faut donc rentrer en région parisienne, et ce n'est pas la maladie qui les inquiète, mais plutôt de retrouver une vie bien vide.
Bah là, ça va être de nouveau me réenfermer dans 40 mètres carrés, de ne pas pouvoir bouger, retrouver des magasins qui sont quasiment vides, les parcs ne sont pas réouverts, donc on ne peut pas faire grand-chose de plus, si ce n'est a priori aller travailler.
Et pour tous, la même inquiétude, le trafic ferroviaire qui s'annonce très réduit malgré le déconfinement.
Reportage d'Élise Dangean. Et pour ceux qui vont retrouver Paris, attention les yeux, Anne Hidalgo veut faire la part belle au vélo, laisser plus de place aux piétons. 50 km de nouvelles pistes cyclables sont à l'étude. Autre information, l'application Stop Covid dont on vous parlait ici même dans ce journal avec le professeur Xavier Jouven qui est à l'origine de cela et qui doit permettre de tracer les contacts avec des personnes diagnostiquées positives au Covid, eh bien sera prête le 2 juin prochain sur les plateformes Apple et Google. C'est ce qu'a annoncé le ministre, le secrétaire d'État Cédric O. Et puis une dernière information concernant l'Assemblée nationale, elle est prête pour le déconfinement, 150 députés maximum et des masques, bien sûr. Midi 13.
Europe 1.
Vous restez avec nous. On va, comme chaque jour, retrouver, bien sûr, notre spécialiste santé, Mélanie Gomez, pour répondre à vos questions. Mais avant, on va parler ensemble de cette aide pour 800 000 jeunes annoncée par Édouard Philippe, privés de petits boulots. Eh bien, le gouvernement vient à la rescousse. C'est Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, qui sera en ligne avec nous. À tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve,
Raphaël Duchemin.
Pierre, imaginez, 4 mètres carrés, eh bien c'est ce que va représenter la semaine prochaine votre espace, le mien aussi d'ailleurs, de travail, une bulle mentale issue du protocole sanitaire du ministère du Travail.
Mais c'est quoi 4 mètres carrés? Bah en gros, imaginez, c'est un piano à queue, un quart de queue avec le tabouret, voilà, ça fait 2 mètres sur 2 mètres. Chez Doublet, bah je parle de ce que je connais, hein, chez Doublet à Avelin dans le Nord, où l'on fabrique non pas des pianos mais entre autres des panneaux de signalisation et des barrières, 40 salariés sur 120 sont déjà présents dans les murs, mais dès lundi, ils seront bien plus nombreux. Reportage de Maximilien Carlier.
À l'entrée du bâtiment, un portant avec du gel hydroalcoolique. Port du masque obligatoire. Au rez-de-chaussée, les ateliers et puis un escalier pour accéder au bureau.
Nous allons mettre à disposition des salariés, des lingettes.
Gaëlle Collard-Doublé, directrice générale.
Pour que justement, à chaque fois, eux-mêmes puissent prendre le réflexe de descendre avec la lingette à la main ou à l'inverse, de monter avec la lingette à la main.
Dans l'open space quasi vide, les ordinateurs sont éteints. Il y a une fine couche de poussière sur les claviers, pas utilisée depuis presque 2 mois.
Ce que l'on a prévu, c'est prendre tout ce qui est sur les bureaux, les mettre dans des cartons et de tout laver à l'eau de Javel. On a également une climatisation. Donc cette semaine, on est en train de regarder comment faire nettoyer cette clim. On va regarder comment augmenter les cloisons. Des cloisons plus hautes pour aussi favoriser la création d'espaces de travail fermés pour les protéger.
Et les salariés auront encore accès à la fameuse machine à café.
On en a besoin.
Mais ils devront avoir de nouvelles habitudes à partir du 11 mai.
Et on nettoie à chaque utilisation.
Avelin, Maximilien Carli, Europe 1.
Et peut-être une bonne nouvelle aussi pour les petits commerces. Le journal Les Échos nous apprend que le gouvernement pourrait annuler leur charge patronale, Emmanuel Dutheil.
Oui, ce sont les entreprises de moins de 10 salariés qui ont été obligées de baisser le rideau à cause du confinement qui vont être concernées par ces annulations de charges. À Bercy, on confirme travailler sur un tel dispositif. Il faut dire que dès hier, dans son discours devant le Sénat, le Premier ministre a ouvert la voie à une telle possibilité. Pour le moment, cette mesure choc avait été évoquée, notamment sur Europe 1, par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, que pour les secteurs de la restauration. Là, ça va être beaucoup plus large. On peut citer par exemple le secteur de l'habillement qui compte beaucoup de petites boutiques indépendantes durement touchées par la crise. Donc secteur qui va être concerné par cette suppression des charges, notamment pour le mois d'avril. Cette annulation de charges concernera aussi des secteurs comme celui de la coiffure, des librairies. Ça représente environ 400 000 entreprises. On parle là de mesures d'urgence. Le gouvernement travaille sur un plan de relance économique beaucoup plus large. Un plan attendu à la rentrée pour tenter d'aider notamment les entreprises à se relever.
Merci Emmanuel Dutheil.
Et puis vous les avez entendus sur Europe 1, les jeunes qui en cette période de Covid sont confinés et donc privés de petits boulots. Eh bien, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé, Pierre, une aide. C'était hier devant le Sénat.
200 euros pour quelques 800 000 précaires de moins de 25 ans, des jeunes pas éligibles à toutes les autres aides mises en place depuis le début de la crise. Bonjour Frédéric Vidal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ministre de l'Enseignement supérieur. 200 euros pour 400 000 étudiants dès le mois de juin, des étudiants bien ciblés, Frédéric Vidal.
Alors oui, c'est une des mesures qui ont été mises en place dès le début de l'épidémie. Ça va concerner tous les étudiants qui ont perdu leur emploi à cause de la crise, sauf si, bien sûr, ils ont été mis en chômage partiel. Et puis, les étudiants qui devaient faire des stages obligatoires gratifiés et qui ne peuvent pas bénéficier de cette gratification. Et puis aussi, l'attention particulière pour les étudiants ultramarins qui sont en hyper éloignement, qui, pour certains, sont restés sur le territoire et qui pourront aussi bénéficier de cette aide.
200 euros pour 400 000 étudiants dès le mois de juin, ça signifie qu'effectivement, ce sont les publics que vous venez de cibler. Quels sont les 400 000 autres qui pourraient être aidés?
Alors, ce sont les jeunes précaires non étudiants, c'est-à-dire des jeunes qui sont en situation de précarité, qui sont bénéficiaires des APL. Et dans ce cas-là, l'aide exceptionnelle sera versée par la CAF. En ce qui concerne les étudiants, comme je vous le disais, c'est l'une des mesures, puisque les établissements ont déjà mis en place des aides aux étudiants pour notamment tout ce qui est connectivité, informatique, capacité à pouvoir suivre les enseignements pédagogiques. Des aides alimentaires de première nécessité ont aussi été mises en place par les établissements. C'est environ 7 millions d'euros par semaine qui sont distribués directement par les universités et les écoles. Et puis les aides spécifiques qui pour des étudiants qui sont en situation particulière et qui trouvent des solutions avec cette fois-ci un rendez-vous avec une assistante sociale. Mais pour l'aide qui a été annoncée par le Premier ministre, c'est une démarche simplifiée, dématérialisée sur le site étudiants.gouv.fr et qui concerne tous les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non boursiers.
étudiants.gouv.fr au pluriel étudiants.
étudiants.gouv.fr singulier.
Frédéric Vidal, déjà avant le Covid, les étudiants avaient manifesté leur détresse et on se souvient tristement de ce jeune qui s'était immolé par le feu. Qu'est-ce qui a été fait pour eux jusque-là? Quelle est la situation? Quel est l'état des lieux aujourd'hui alors qu'on est en pleine crise du Covid?
Alors, c'est un état des lieux qui, effectivement, a été particulièrement pris en compte pendant cette période. Mais nous avions d'ores et déjà mis en place des aides spécifiques et renforcé les financements des aides spécifiques. Comme vous saviez, ces étudiants, très souvent, ne connaissaient pas ces aides. C'est très souvent un problème de connaissance de ce qui est mis à leur disposition. Donc, un numéro vert avait été mis en place. Les aides spécifiques avaient été renforcées pour les étudiants précaires. Et là, c'est une brique supplémentaire qui a été mise en place dans le cadre de l'épidémie, en plus de ces aides spécifiques. D'une part, la prise en charge par les établissements grâce à la contribution vie étudiante, et puis cette aide supplémentaire sous forme de guichet par l'État qui nous permet de répondre à ces demandes. Vous savez qu'on considère que environ la moitié des étudiants ont un petit boulot à côté de leurs études. Et évidemment, ça a été très compliqué pour eux, soit de ne plus avoir ce travail, soit de compter sur les gratifications de stage et de ne plus pouvoir en bénéficier.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que quand on est étudiant en France, on est pauvre, ou est-ce que vous diriez au contraire qu'il y a trop d'inégalités? Quel est votre sentiment?
Alors, ça dépend évidemment de la façon dont on observe les choses. Il y a beaucoup d'aides pour les étudiants qui existent en France, beaucoup plus que dans d'autres pays. Néanmoins, notre souhait, c'est qu'un maximum de jeunes puissent accéder à l'enseignement supérieur. Et donc, ça signifie que nous devons apporter une attention particulière aux plus fragiles d'entre eux, à ceux pour lesquels c'est le plus difficile de combiner leurs études avec des difficultés financières à côté. Et donc, c'est tout l'objet du travail.
Et c'est le cas avec notamment cette aide pour cette situation bien particulière. Merci beaucoup Frédéric Vidal d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Midi 22, c'est l'heure de retrouver la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez, qui nous rejoint comme chaque jour. Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Raphaël, bonjour Pierre, bonjour tout le monde.
Première question, celle de Stéphanie. Mélanie, elle est maman de deux enfants, elle vit dans le 92. Mon fils est en CP et doit reprendre l'école le 14 mai. Est-ce que l'équiper d'une visière de protection ne serait pas mieux qu'un masque, nous demande-t-elle?
Alors c'est vrai Stéphanie qu'on voit de plus en plus de gens s'équiper de ce type de visière en plastique. Alors les experts disent que pourquoi pas, hein, c'est un équipement qui peut conférer une certaine protection vis-à-vis surtout des grosses gouttelettes de salive qui pourraient être projetées par quelqu'un qui éternue ou qui tousse à côté de lui, de votre enfant. Et puis ce qui est pas mal aussi avec ces visières, c'est qu'en couvrant finalement son visage, il sera peut-être moins tenté de se toucher le nez ou les yeux avec ses mains pas toujours propres. Néanmoins, une visière ça protège quand même moins bien qu'un masque des particules de virus qui pourrait se retrouver en suspension dans l'air car la visière en dessous, ben, ça peut passer hein, les particules, donc ça ne couvre pas la bouche et le nez. Donc une visière, pourquoi pas, mais pour se protéger plus efficacement, hein, les autorités recommandent surtout le masque, sans oublier bien sûr les autres gestes barrières, hein, comme le lavage régulier des mains et la distance d'un mètre ou deux entre les uns et les autres.
Hélène a 42 ans, elle habite le Loiret. Est-il utile de se munir d'un diffuseur d'huiles essentielles chez soi? On me le conseille et je pense que ça doit purifier l'air des virus.
Alors Hélène, vous faites évidemment comme bon vous semble, mais concernant les sprays et diffuseurs d'huile essentielle, sachez quand même que les autorités viennent justement de rendre public il y a quelques jours les résultats d'une étude de toxicovigilance sur ces produits. Alors ce qui ressort, c'est d'abord que les diffuseurs d'huile essentielle sont loin d'être anodins. Ils ont l'impression comme ça que c'est tout à fait naturel, mais finalement attention parce que cette étude note des effets indésirables en conditions normales d'utilisation, notamment des cas d'irritation assez importante au niveau des yeux, de la gorge ou du nez, mais aussi des problèmes de toux ou des difficultés respiratoires chez plusieurs utilisateurs. Alors pour éviter ça, il faut toujours penser à bien aérer son intérieur lorsqu'on utilise ce type de spray dans des espaces clos. Et puis pour répondre à votre question sur l'aspect antivirus assainissant de ces produits, eh bien là l'ANSES est catégorique, les huiles essentielles ne constituent pas un moyen de lutte contre le coronavirus, hein, ni en prévention ni en curative. Aucune étude sérieuse ne l'a démontré. Donc à ce stade, le côté antivirus de ces produits, eh bien on peut dire que c'est uniquement des promesses de fabricants.
Merci Mélanie Gomez. On vous retrouve tout à l'heure à 13h dans le journal et à 15h pour 100 rendez-vous, midi 25.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1. Quel plan pour la culture? On sera réellement fixé demain. Mais déjà ce matin, Franck Riester sur Europe 1 a donné quelques premières pistes pour les cinémas. Attention, dit l'ancien ministre de la culture ne doit pas être une variable d'ajustement. Nous serons avec Jean-Jacques Ayégon.
Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Raphaël Duchemin.
Il est 12h27 et depuis presque deux mois maintenant, la France est privée de cinéma, de salles de spectacle, de salles de concert aussi.
Et Franck Riester a choisi Europe 1 ce matin pour donner des précisions sur le cinéma, notamment précision pour l'instant, il faut dire un peu flou, mais au bout du bout, une volonté. Écoutez le ministre de la Culture.
La volonté de la Fédération du cinéma français, c'est que la rouverture se passe en même temps partout en France. Le problème, vous l'avez compris, c'est que le virus, il ne circule pas de la même façon partout en France. Et donc nous avons besoin avec eux de continuer à discuter pour savoir si il serait malgré tout possible d'avoir des ouvertures dans des zones où le virus circule moins, ou s'ils préfèrent vraiment ouvrir en même temps partout en France. En tout état de cause, il y a besoin d'un délai. Ils nous disent qu'il y a au moins 4 semaines de délai entre le moment où la décision de réouverture sera prise et le moment où effectivement l'ouverture sera effective. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec eux. Ce qui est certain, c'est que nous avons la volonté que les salles de cinéma rouvrent.
Franck Riester avec Sonia Mabrouk, notant aussi que le ministre de la Culture ne sait pas encore si une année blanche sera accordée aux intermittents. L'idée pour l'instant est dans l'urgence de repousser de 3 mois le délai pour regarder le nombre d'heures obtenues par les intermittents pour bénéficier de leur régime d'assurance chômage et de leur protection sociale, Raphaël.
Ouais, en tout cas pour le cinéma, Pierre, un rapport a été remis à Emmanuel Macron avec justement des préconisations pour les salles. L'auteur, c'est l'infectiologue François Bricaire. On voit le détail avec Angèle Châtelier.
Organiser les files d'attente, supprimer les vestiaires, venir avec un masque, faire une croix sur les entractes pour éviter les contacts et surtout mettre une distance d'1 mètre à 1 mètre 50 entre chaque spectateur qui serait en quinconce. Ces préconisations de l'infectiologue François Bricaire, membre de l'Académie de médecine, sont faites pour que le secteur de la culture qui suffoque puisse reprendre vie à court terme.
L'objectif de cette sécurisation était que le monde du spectacle et les spectateurs comprennent qu'en venant dans une salle de spectacle, il ne prenait pas plus de risques que de prendre le métro ou de circuler dans tel ou tel endroit.
Des mesures pas vraiment viables, nous dit le Prodis, principal syndicat du spectacle vivant. Difficile d'imaginer un concert de rock masqué avec des spectateurs debout à 1 mètre de distance ou bien encore des danseurs ne pas se toucher. Et puis remplir une salle qu'à moitié risque de ne pas être rentable pour ses propriétaires, les tourneurs et même les artistes. Depuis le 1er mars, le spectacle vivant a perdu 600 millions d'euros selon le syndicat. Pour l'heure, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits jusqu'à fin mai, moment où Franck Riester, ministre de la Culture, reviendra sur la possibilité d'organiser de petits festivals ou rouvrir les salles de cinéma.
Voilà donc pour le cinéma et pour le monde de la culture en général, l'occasion pour nous d'accueillir un homme qui a dirigé de nombreux musées d'instances culturelles, le domaine de Versailles notamment, après avoir été lui-même ministre de la Culture. Bonjour Jean-Jacques Ayégon. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Midi. Vous signez cette tribune dans Le Point. Vous dites que la culture ne doit pas être considérée comme une variable d'ajustement. Est-ce que ça veut dire qu'encore aujourd'hui, le monde de la culture passe au second plan dans les variables budgétaires?
Écoutez, ça arrive. Mais je crois que l'annonce qui a été faite par le président de la République, qu'il s'exprimerait à ce sujet, est plutôt de bon augure. Le monde de la culture est un constituant majeur de l'identité de notre pays. C'est un facteur extraordinaire de la qualité de la vie en France, du développement également de l'intelligence et de la responsabilité et de la prise de responsabilité à l'égard des choses. Donc il faut que la culture, que la vie culturelle soit épargnée, qu'elle soit même sauvée et qu'on se propose de la conduire encore plus haut qu'elle ne l'était après la crise.
Vous dites que la politique culturelle ne peut émaner que du chef de l'État lui-même. Mais justement, et vous venez de le préciser, le président de la République est très féru de culture. Il l'a montré de nombreuses fois. Il fait vivre le patrimoine, il fait revivre les domaines nationaux pour les conférences étatiques. Qu'est-ce que vous lui reprochez, si j'ose ce terme ?
Écoutez, je ne lui reproche rien du tout. J'aimerais ne rien lui reprocher. En tout cas, j'attends avec impatience les déclarations qu'il fera demain. Bon, c'est une vieille habitude de notre pays, très monarchique dans sa mémoire et dans sa pratique des institutions, que toujours se tourner vers le président de la République. Je crois qu'on ne va pas, à l'occasion de cette crise sanitaire, faire autrement. Mais je souhaiterais également qu'on n'oublie pas qu'il y a un ministre de la Culture et que c'est au ministère de la Culture à mettre en œuvre un vaste programme de survie et de développement pour la culture. Si on ne met pas le ministère de la Culture aux avant-postes de la responsabilité, pourrait demain se poser tout simplement la question de son utilité, donc de son existence.
Franck Riester qui était effectivement ce matin sur Europe 1 et vous l'avez peut-être entendu dans le reportage d'Angèle Châtelier, Jean-Jacques Ayagon, cette reprise, si elle se fait, elle se fera à minima. En tout cas, les salles de cinéma ne seront qu'à moitié pleines. Même chose pour les éventuels spectacles. Est-ce que ça peut malgré tout pérenniser l'ensemble du secteur si on ne reprend qu'à moitié?
Écoutez, nous sommes tous partagés. Nous avons tous envie que ça recommence parce que nous avons tous envie de vivre normalement, de reprendre une pleine possession de nos existences, de cesser d'être confinés, de cesser d'être entravés dans nos mouvements, de cesser d'être empêchés dans nos passions et notamment nos passions culturelles. Mais nous avons également tous le souci de la santé individuelle et de la santé collective. Donc on comprend très bien les hésitations, on comprend très bien parfois même les atermoiements, il faut être d'une relative indulgence à leur égard. La reprise ne pourra qu'être progressive. Mais vous avez raison de le souligner, elle est parfois facile. Il est facile d'ouvrir un musée, de contingenter l'accès aux salles permanentes du musée à des publics qu'on aura prévenus, des mesures à respecter. C'est plus difficile au théâtre parce que le théâtre, c'est un peu comme la grève. C'est un droit individuel qu'on exerce collectivement. Il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de concert quand on n'est pas ensemble à regarder et à entendre la même chose. Le théâtre nous vient de la Grèce antique où il était un acte religieux, une sorte de cérémonie qui liait les citoyens de la cité qui se retrouvaient sur le même lieu, dans la même enceinte pour voir, oui, non pas un spectacle, mais une sorte de célébration ensemble.
En plein air, donc il y avait dans les ecclésias grecques, c'était en plein air, donc il y avait peut-être plus de gestes barrières. En tout cas, votre confinement, vous, Jean-Jacques Ayagon, vous connaissant, vous avez dû le vivre bien, vous avez dû relire les 7 volumes de La Recherche du Temps Perdu, de Proust, ou quelque chose de semblable. Donc finalement...
J'en suis à relire ouais, à l'ombre des jeunes filles. Hein, c'est celui des romans de Marcel Proust par lequel j'avais découvert son œuvre. Donc ouais, je n'avais pas tout à fait commencé par le début de la recherche. Je relis également beaucoup les poètes. J'ai sur mes genoux actuellement les Fleurs du Mal parce que je trouve que c'est une lecture de saison. J'écoute beaucoup de musique. La radio, la télévision, Internet nous proposent aujourd'hui l'accès à beaucoup de richesses culturelles, mais malgré tout, j'ai hâte de voir un tableau accroché dans un musée, j'ai hâte d'aller dans une galerie, j'ai hâte de rendre visite à un artiste, j'ai hâte...
Et vous avez hâte, Jean-Jacques Ayagon, pardon de vous interrompre, mais parce que vos propos tout à l'heure, il faut les relever. Vous avez parlé du ministère de la Culture. Est-ce que vous voudriez qu'on donne... ce que vous avez dit, plus de pouvoir à Franck Riester, qui était ce matin l'invité d'Europe 1. Est-ce que vous avez senti chez lui un frein et que effectivement, vous avez dit que le pouvoir central était sur le président de la République qui, justement, s'exprimant là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une rue de Valois qui était comme du temps de Malraux, comme du temps d'autres ministres emblématiques comme ça?
Écoutez, moi, tout d'abord, j'ai la préoccupation comme citoyen du bon fonctionnement de nos institutions. Je vous l'ai dit, nous vivons dans une république très monarchique. Oui. Le président de la République joue un rôle d'équilibre essentiel dans nos institutions. Néanmoins, il faut qu'il se garde lui-même de tout ramener à lui. En ramenant tout à lui, il s'expose d'ailleurs et se fragilise et parfois cesse d'être le président de tous les Français dont notre pays a besoin. Donc je tiens également à ce que le gouvernement, qui est en charge de la politique de la nation, exerce toute sa responsabilité et qu'au sein de ce gouvernement, chacun des ministres puisse exercer sa part de responsabilité, puisse exercer son ministère. Donc je suis très très attentif, je suis toujours très très soucieux, plus exactement, de tout ce qui ressemble à une amputation de la part de la responsabilité du ministère de la Culture, et toujours également très très soucieux que lui soit restituée la totalité de ses compétences, la totalité de ses attributions. l'administration, c'est un grand ministère. Il y a eu de très grands ministres de la culture, vous avez cité Malron, on peut citer Lang, qui a été ministre pendant 10 ans, et beaucoup d'autres de mes prédécesseurs qui ont exercé ce ministère avec enthousiasme et avec talent.
Franck plus Lester, de liberté, plus de mains libres en tout cas pour le ministère de la culture de la rue de Valois. Voilà ce que vous préconisez, Jean-Jacques Ayagon. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir été notre invité dans Europe Midi.
Et on va rester un instant, si vous le voulez bien, Pierre, dans le monde de la culture. Les bibliothèques et les médiathèques pourront rouvrir le 11 mai, mais là aussi, hein, vous allez le voir, avec quelques gestes barrières.
Et après la surprise, le dépit, c'est le sentiment des bibliothécaires de France. Aujourd'hui, on tente tant bien que mal de s'organiser. Justin Morin.
Pour moi, c'est pas possible qu'on ouvre le 11 mai. Ce serait totalement irresponsable et moi, je pense que je verrai pour exercer mon droit de retrait.
Manque d'informations, manque de visibilité. Julie doit reprendre le travail dans 6 jours, mais rien n'a été prévu, donc rien n'est prêt. Idem dans la bibliothèque de région parisienne où travaille Thomas. Faut-il interdire la lecture sur place ou faut-il plutôt désinfecter les fauteuils après chaque passage, condamner les automates de prêt?
Les gens qui vont effectivement prendre un livre, parcourir quelques pages, le reposer sur l'étagère, mais derrière vous avez d'autres personnes qui vont manipuler les mêmes documents. Tout ça, c'est des facteurs de multiplication de risques.
Son équipe réfléchit à une quarantaine pour les 25 000 livres et CD toujours confinés chez l'habitant, mais ils ne seront pas prêts le 11 mai comme le souhaiteraient les élus. L'association des bibliothécaires de France vient de publier un guide pour toutes les bibliothèques.
On se retrouve un peu livré à nous-mêmes, ce qui a un peu précipité aussi les choses. Et puis,
Alice Bernard, sa présidente.
Voilà, ne pas les réouvrir dans l'urgence et n'importe comment. On n'est pas à une semaine près ou deux. On peut commencer à mettre les choses en place petit à petit et voilà.
Au début, de nombreuses bibliothèques prévoient seulement un système de retrait après commande. L'accueil du public viendra bien plus tard.
Reportage de Justin Morin, midi 38.
Europe 1.
Restez avec nous. 2 soldats français tués au Mali en 4 jours. Que se passe-t-il dans l'opération Barkhane? On va essayer de comprendre. Et puis, nous irons en Russie, où on pensait le pays un temps relativement épargné. Eh bien, le pays est touché à son tour par le Covid-19. A tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve,
Raphaël Duchemin.
12h41 sur Europe 1, la France est, vous le savez, toujours engagée dans l'opération Barkhane au Mali. Mais voilà qu'en l'espace de 4 jours, Pierre, 2 soldats français ont été tués.
Oui, après le décès du brigadier Dmitro Martiniouk vendredi, c'est au tour du première classe Kevin Clément de tomber sous les balles. Tous deux faisaient partie du REC, le régiment étranger de cavalerie de Carpiane. Didier François, qu'est-ce qui se passe précisément dans cette région?
Alors c'est ça, on peut bien comprendre que les armées françaises sont engagées depuis 4 mois dans une vaste manœuvre d'attrition des groupes terroristes au Mali. C'est ce qui avait été décidé au sommet de Pau le 11 décembre dernier. Et c'est donc ce qui est mis en œuvre depuis janvier. Les effectifs de l'opération Barkhane ont sérieusement été renforcés, passant de 4500 hommes à 5100 hommes. Le rythme des engagements est devenu extrêmement soutenu, avec plus d'une centaine de djihadistes neutralisés tous les mois, et ce qui explique mécaniquement l'augmentation des risques de perte pour les soldats français. Donc effectivement, Kevin Clément, qui est tombé hier au combat, a été mortellement blessé par une balle au cours d'un accrochage, alors que son escadron menait une opération de ratissage dans une zone où se cachaient des éléments terroristes isolés. Ces deux d'ailleurs ont été abattus. Son camarade légionnaire Dmitro Martiniouk, lui, est mort de ses blessures à l'hôpital de Percy il y a 3 jours, après avoir sauté sur une mine artisanale le 23 avril, dans le même type d'opération. C'est ce que les militaires appellent des actions de harcèlement zonal. Ça consiste à débusquer les terroristes au cœur de leur bastion, à détruire leur camp, leur cache, saisir leurs armements, leur carburant, et puis éliminer leur chef pour réduire leur capacité à nuire. La zone visée d'ailleurs n'est plus le nord désertique, vous savez, Gao, Tombouctou, Tessalit, où était installé Al-Qaïda au Maghreb islamique au tout début du conflit, en 2013. Cette zone-là, elle est assez bien nettoyée. L'effort aujourd'hui porte sur la région dite des trois frontières, qui est à la limite entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est là que s'est incrusté un nouveau groupe, l'État islamique pour le Grand Sahara, et il s'agit de le réduire.
Merci beaucoup Didier François de ces précisions.
L'épidémie de coronavirus, Pierre, cette fois en Russie, avec plus de 10 000 cas quotidiens enregistrés ces derniers jours. Le pays compte désormais plus de 145 000 cas et presque 1 400 morts.
Il s'agit de la progression la plus rapide du virus en Europe, si l'on décide de l'inclure, cette Russie, en Europe. Précisément, comment ça se passe sur place, Jean-Jacques Herry?
Ce qui frappe dans l'évolution de la pandémie en Russie, c'est le faible taux de mortalité chez les malades, moins d'1% contre presque 6% pour les États-Unis, par exemple. Des chiffres officiels qui interrogent. Tatiana Castoué-Vajon est directrice du Centre Russie à l'Institut français des relations internationales.
C'est la qualité des tests, les diagnostics qui sont posés, etc. On ne sait pas répondre pour l'instant.
À partir du 12 mai, les mesures de confinement devraient être progressivement levées, alors même que le pic de l'épidémie n'aura peut-être pourtant pas été atteint. Mais selon Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe, Vladimir Poutine n'a pas le choix, car il est pris en tenaille entre urgence sanitaire et urgence sociale. Au mois d'avril, il avait en effet demandé aux entreprises de continuer à payer leurs salariés placés au chômage pour favoriser le confinement, mais les entreprises n'ont pas suivi.
En Russie, il n'y a pas de filet de sécurité sociale comme en France. Le chômage partiel n'existe pas. Et donc, les gens qui sont confinés, très théoriquement, reçoivent leur salaire, mais dans les faits, si vous êtes fonctionnaire, c'est bon. Mais même dans les grands groupes comme Gazprom, certains de mes contacts me disent qu'ils ne seront pas payés intégralement. Et il y a un risque qui est peut-être plus un risque économique et social, vu du Kremlin en tout cas.
Le chef de l'État russe présidera demain une réunion sur un possible déconfinement. Dans le contexte actuel, beaucoup s'attendent à un mécanisme différencié selon les régions.
Merci Jean-Jacques Herry.
L'inquiétude monte, Pierre, chez les maires à la veille du déconfinement qu'ils doivent mettre en œuvre.
Hier, le Sénat a voté contre l'avis du gouvernement une exemption de responsabilité juridique des élus locaux dans le cadre de l'urgence sanitaire. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que risque pénalement un maire, Marion Dubreuil ?
Eh bien, selon la loi, un maire peut être poursuivi pour mise en danger de la personne d'autrui s'il a manqué à une obligation de prudence ou de sécurité. C'est un délit passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, jusqu'à 3 ans de prison en cas d'homicide involontaire. Les sénateurs veulent modifier la loi pour mettre les élus locaux, mais aussi plus largement les employeurs et les fonctionnaires, en bref, tous les acteurs de terrain qui appliquent les mesures du gouvernement hors de cause pendant l'état d'urgence sanitaire. Par exemple, si un administré dépose plainte parce qu'il a contracté le Covid-19 après le retour de son enfant à l'école ou la reprise des transports collectifs. Mais en l'état du droit, il faudrait déjà pouvoir prouver le lien direct entre la décision du maire et son impact éventuel sur un ou plusieurs habitants de la commune. La mise en danger de la vie d'autrui est difficile à caractériser, comme en atteste le faible nombre de condamnations des élus locaux. Depuis 2014, 43 élus locaux ont été poursuivis et seuls 12 d'entre eux ont été condamnés.
Marion Dubreuil, on l'apprend à l'instant, Arnaud Lagardère a gagné le bras de fer qu'il opposait au premier actionnaire de son groupe, le fonds activiste Amber Capital, dont toutes les résolutions déposées en Assemblée Générale ont été rejetées. Arnaud Lagardère s'est félicité d'un vote sans appel en faveur de la gérance et de sa stratégie et conserve un conseil de surveillance favorable à sa gouvernance. Midi 46.
Europe 1.
Vous restez avec nous jusqu'à 14h. Et comment vont fonctionner les enceintes sportives après le 11 mai? Vous êtes nombreux à vous poser la question. Eh bien, on a beaucoup de pistes, mais peu de certitudes, sauf peut-être pour un sport, le tennis. On voit ça dans un instant. À tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve,
Raphaël Duchemin.
Midi 48 sur Europe 1. Nous nous interrogions hier, Pierre, dans ce même journal, quel dispositif pour les enceintes sportives après le confinement?
Eh bien, on n'a pas encore toutes les réponses, mais on les a pour le tennis amateur de la petite balle jaune. Vous êtes à peu près 1 million de licenciés en France. Sachez que la pratique sera soumise à des règles strictes de protection sanitaire, Axel May.
Oui, oui, la Fédération française de tennis vient d'envoyer à tous ses clubs le protocole de reprise validé, bien entendu, par le ministère des Sports. La pratique loisir va donc pouvoir reprendre, mais uniquement en simple, pas question de faire des doubles. Et il faut aussi que votre club dispose de terrains extérieurs pour être à l'air libre. Les cours individuels encadrés par un enseignant diplômé d'État seront également autorisés, ainsi que l'entraînement pour les joueurs de haut niveau. Tout cela restant bien sûr conditionné aux décisions du gouvernement concernant la date du 11 mai. Chaque club doit désigner un référent Covid-19 pour renseigner ses adhérents sur cette reprise d'activité. Alors concrètement, Pierre, la Fédération française a réalisé un poster pédagogique que vous pouvez retrouver sur le site internet de cette fédération. Les pratiquants devront par exemple arriver déjà en tenue de tennis, nettoyer leur banc ou leur chaise avec un produit désinfectant avant et après avoir joué. Lors des changements de côté, il faut passer de part et d'autre du filet pour ne pas se croiser de près et il faut utiliser des balles avec un signe distinctif et ne pas ramasser celle de son adversaire. Et puis, bien sûr, la traditionnelle poignée de main à la fin de la partie est proscrite. Vous pouvez, pourquoi pas, la remplacer, Pierre, par un salut avec votre raquette.
Ne pas ramasser la balle de celle de l'adversaire. D'accord. Ah bah ça va être simple, ça. Merci, Axel May.
Bien, on va voir justement comment ça va se passer. Bonjour, Bernard Dupuis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Président de la Villa Primrose, club de tennis bordelais centenaire, champion de France interclub en titre. Comment est-ce que vous allez vous organiser pour suivre toutes ces directives ?
Mais écoutez, on va d'abord les suivre à la lettre, car je crois que c'était la condition indispensable pour que enfin nos membres puissent réintégrer nos clubs. La Fédération française de tennis et son président Bernard Guidicelli, qui s'est personnellement beaucoup impliqué dans ce dossier, a fait en sorte de faire des propositions au ministère des Sports et au Premier ministre. Elles ont été acceptées car elles rentraient dans le cadre de ce qui avait été annoncé l'autre jour, c'est-à-dire une activité sportive individuelle en plein air. Le tennis s'y prête et évidemment on va se conformer à tout ça. Évidemment, nous sortons un peu de nos fonctionnements habituels. Il y a des consignes qui sont très très strictes, qui sont nouvelles, mais l'essentiel pour nous est de retrouver les cours dès le 11 mai, ce qui va vraisemblablement se mettre en place.
Vous reprenez donc dès le 11 mai, il y a combien de membres à la Villa Primrose ?
Nous avons plus de 1500 licenciés, 2300 membres, puisque nous avons également une autre activité qui, elle, ne reprendra pas, le hockey sur gazon, un sport collectif, et puis des membres qui participent à la vie sociale du club. Mais tous sont impatients de retrouver les cours. On est évidemment à une période où, généralement, les cours en terre battue sont disponibles. Les approches des grands tournois, et notamment de Roland-Garros, motivent la pratique. Et aujourd'hui, tous nos adhérents piaffent de pouvoir revenir sur le cours, même s'ils vont le faire dans des conditions particulières.
Comme on ne peut pas revenir tous en même temps, comment vous allez faire ? Vous faites un système de réservation ?
Bien sûr. Alors les réservations d'abord ne sont autorisées que en ligne ou par téléphone, puisque les lieux d'accueil des clubs sont malheureusement pas ouverts, que ce soit les lieux d'accueil pour les membres ou les lieux de restauration, les salles de gymnastique. Donc c'est uniquement des réservations qui vont se faire pour les clubs en ligne ou par téléphone. Uniquement la pratique du simple, donc deux personnes par cours. Évidemment le respect des consignes sanitaires avec la distribution de matériel, de gel, de lingettes pour nettoyer tout ce qui subsiste encore sur les cours, les filets, les chaises. Enfin, disons qu'on a un arsenal de dispositions qu'il nous faudra évidemment respecter. Et puis surtout, cette pratique de ne pas toucher les balles qui peut paraître un peu étonnante, mais qui finalement, pour deux partenaires, va s'avérer assez facile à mettre en place avec deux boîtes de balles différentes qui pourront être annotées spécifiquement pour qu'on puisse les utiliser sans toucher celle de son partenaire.
Autre chose, pas de vestiaire, pas de restaurant, bien sûr ?
Non, bien sûr, tout ça est fermé. Tous les espaces collectifs sont évidemment pas autorisés. Donc ça va être une vie du club qui va être extrêmement simplifiée. Nous avons également des consignes pour que les gens puissent être, notamment les enfants, éventuellement déposés à l'entrée du club, récupérés ensuite, pas d'accompagnants. Donc c'est vrai que tout ça paraît très restrictif, mais il nous permet en tout cas de retrouver la pratique. Ça c'est d'ailleurs une phase qui va être mise en place théoriquement jusqu'au 2 juin, et on espère qu'à partir du 2 juin, selon là aussi les consignes gouvernementales, puisque nous y référons impérativement, c'est la condition sine qua non, selon les consignes gouvernementales, il y aura peut-être une deuxième phase qui nous permettra de retrouver une pratique plus traditionnelle et plus ouverte vers tous les membres.
Alors justement, avec des cours à destination des enfants notamment ?
Alors pour l'instant, les cours individuels sont seulement autorisés. Ça va nous permettre aussi de pouvoir quand même traiter un certain nombre de demandes vis-à-vis de certains de nos adhérents. Cours individuels exclusivement, avec là aussi des consignes précises. Les éducateurs ne pourront uniquement toucher les balles eux-mêmes, pas les enfants, ce qui nous interdit d'ailleurs la pratique de l'exercice du service. Ça paraît assez étonnant, mais c'est comme ça. Et puis à partir de la deuxième phase, peut-être le 2 juin, mais là aussi on ne maîtrise pas la situation, c'est le gouvernement qui le fera, on pourrait arriver à retrouver, nous l'espérons, les cours collectifs qui là aussi sont en souffrance et en attente depuis de nombreuses semaines.
Eh bien, merci beaucoup Bernard Dupuis, président de la Villa Primrose, club de tennis bordelais, centenaire. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi. On parle basket maintenant, Raphaël ?
Oui, basket et rêve américain de l'Olympique Lyonnais. Ces derniers jours, Pierre, on a davantage entendu, c'est vrai, Jean-Michel Aulas pester contre les décisions du foot français, mais il tisse sa toile à l'étranger.
Oui, au point que son associé, l'ancienne star Tony Parker, ne cache plus son ambition de racheter une franchise de la prestigieuse NBA. Jean-François Pérez.
Mon but ultime est de posséder un jour une équipe de NBA. Avec l'OL, nous avons de grands rêves. Cette déclaration de Tony Parker affole déjà la planète basket. Elle résume parfaitement l'histoire de deux personnalités que rien ne destinait à travailler ensemble, si ce n'est l'ambition et le goût du défi. D'un côté, Jean-Michel Aulas, doyen des présidents du foot français, agitateur d'idées et parfois de polémiques, mais qui a fait de son OL un club qui compte. De l'autre, Tony Parker, star du basket français et de la NBA, jeune retraité des parquets, devenu homme d'affaires multicarte. Les deux hommes ont scellé il y a quelques mois une union de passion autant que de raison. Les projets fourmillent. Le groupe OL a misé sur l'e-sport, le nouvel Eldorado des investisseurs. Racheter un club de foot féminin aux États-Unis, déjà, le voilà donc officieusement candidat à une entrée dans le prestigieux championnat américain de basket. Jamais un groupe français n'avait affiché pareil objectif. Le rachat d'une franchise dépasse le milliard de dollars. Le marché est réputé imprenable, mais typique, comme on le surnomme là-bas, est une icône capable de soulever des montagnes. Ce n'est pas pour rien que Jean-Michel Aulas envisage ouvertement d'en faire son successeur dans quelques années.
Merci Jean-François Pérez. Et puis on apprend que la Chine a lancé, et d'ailleurs le lancement est réussi, a lancé une fusée avec un vaisseau spatial. Voilà les médias d'État chinois qui lancent ça, comme quoi la reprise en Chine en tout cas, elle est bien avancée, puisqu'on on reprend également la conquête de l'espace, Raphaël.
Merci Pierre. Nous repartirons à la conquête de l'information avec vous à partir de demain midi, évidemment, pour le Grand Journal. À demain Pierre. On va prendre des nouvelles du temps. Anissa Dadi est au rendez-vous comme chaque midi. Que se passe-t-il Anissa sur notre carte météo aujourd'hui ?
Alors nous avons un retour au calme hein, Raphaël, surtout sur le sud-ouest. C'est vrai que les dernières heures ont été très agitées sur les Landes, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Ça se calme, ces orages forts s'éloignent. Alors cet après-midi sur l'Occitanie et jusqu'aux régions méditerranéennes, le temps reste sec avec tout de même pas mal de nuages. Cet après-midi sur la Bourgogne, la Franche-Comté et les Alpes, eh bien là les averses orageuses vont pointer le bout de leur nez. C'est uniquement là qu'elles vont agir cet après-midi. En Normandie, en région parisienne, sur le centre et l'Auvergne, nous avons quelques averses hein, qui se partagent le ciel avec de belles éclaircies. Et puis au nord, sur les côtes de la Manche, c'est le vent qui souffle. Alors les températures, elles sont fraîches au nord avec 13 à Dunkerque, 15 à Belfort, 17 à Paris, 20 à Rennes et Nantes. Bien plus douces sur la moitié sud avec 24 à Saint-Étienne, 26 à Lyon et 27 pour Avignon.
Merci Anissa. Europe 1. Restez avec nous. Le Made in France marchait de mieux en mieux avant la crise. Sera-t-elle une occasion de plus de le relancer plus fort ? Réponse dans une minute sur Europe 1. A tout de suite.